accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous. L'onde de choc de la crise catalane va désormais encore plus loin que Bruxelles, où se trouve et d'où s'exprime désormais le principal acteur de l'indépendance, Carles Puigdemont. Dans les Balkans, les velléités d'indépendance catalane réveillent les tentations sécessionnistes qui continuent d'agiter la région un quart de siècle après l'éclatement de la Yougoslavie. C'est particulièrement sensible en Bosnie-Herzégovine, écartelée entre les revendications bosniaques, serbes et croates. Monrico.
La crise catalane qui ébranle l'Espagne depuis plusieurs semaines est abondamment commentée en Bosnie-Herzégovine. Les réactions les plus vives sont venues du côté de la Republika Srpska, l'entité serbe de la fédération. Son président, Milorad Dodik, s'étonne que l'on refuse à la Catalogne le droit d'organiser un référendum d'autodétermination, alors que le Kosovo, sans même tenir de consultation populaire, a vu sa déclaration unilatérale d'indépendance reconnue par la majorité des pays occidentaux. Cette politique de double standard se constate aussi en Bosnie-Herzégovine, précise Milorad Dodik, estimant que la communauté internationale favoriserait les Bosniaques au détriment des Serbes. Depuis plusieurs années, il revendique le droit à la sécession de la Republika Srpska. À Mostar, ville symbole des divisions entre Bosniaques et Croates, plusieurs panneaux ont défrayé la chronique ces dernières semaines. Le plus commenté a été installé après le référendum catalan du 1er octobre. Il suggérait que les Croates pourraient être les suivants à prendre le chemin de l'indépendance. Face à l'exacerbation des tentations séparatistes, les autorités fédérales restent plutôt discrètes. Le chef du gouvernement, le bosniaque Denis Zvizdic, a simplement envoyé un courrier officiel aux autorités de Madrid pour les assurer de son soutien à l'intégrité territoriale de l'Espagne. Au printemps 1992, la Bosnie-Herzégovine avait elle aussi organisé un référendum sur son indépendance. 99,4% des votants s'étaient prononcés pour, alors que la minorité serbe boycottait le scrutin. Opposé à la sécession reconnue par l'Union européenne et les États-Unis, le président yougoslave Slobodan Milošević avait déployé alors son armée en Bosnie-Herzégovine, le début d'une guerre qui allait faire plus de 100 000 morts et 2 millions de réfugiés.
En Turquie, pas un jour ne passe dans les tribunaux sans que des journalistes, activistes et autres voix critiques ne soient jugés pour terrorisme. Depuis la tentative de putsch de l'été 2016, nombre d'entre eux sont même accusés d'avoir soutenu ou d'appartenir à plusieurs organisations terroristes à la fois. C'est la théorie du cocktail terroriste. À Istanbul, la semaine dernière, un handlauer a suivi l'ouverture de deux procès emblématiques de ce concept inventé par le pouvoir pour faire taire ses opposants.
Pour la plupart d'entre eux, le palais de justice d'Istanbul est un lieu familier. Au fil des ans, ils ont improvisé des conférences de presse sur les dalles grises de son parvis, arpenté ses 19 étages, suivi d'innombrables procès, toujours côté public. Mais ce jour-là, 11 défenseurs des droits de l'homme passent de l'autre côté, sur le banc des accusés. 9 d'entre eux, dont İdil Eser, directrice d'Amnesty International Turquie, Taner Kılıç, son président, ainsi qu'un citoyen allemand et un suédois, sont en prison depuis plus de 3 mois. L'audience va bientôt commencer. Devant le tribunal, un attroupement de journalistes et d'activistes se forme. Andrew Garner est chercheur à Istanbul pour Amnesty International.
Notre directrice et notre président sont en prison. C'est une première mondiale pour Amnesty en 60 ans d'histoire. Ce procès constitue une escalade majeure. Ces gens sont ceux qui ont mené les campagnes d'Amnesty sur des questions graves comme la torture, les déplacements de population dans le sud-est de la Turquie. Donc il s'agit vraiment de cibler les personnes qui ont révélé ces violations des droits de l'homme.
Au terme de 12 heures d'audience, 8 des 11 accusés sont relâchés, dont la directrice d'Amnesty. Mais les charges contre eux sont maintenues et elles sont lourdes. L'acte d'accusation leur reproche d'avoir soutenu à la fois 3 organisations terroristes armées. Le mouvement de l'imam Fethullah Gülen, considéré comme le cerveau du coup d'État raté de juillet 2016, les séparatistes kurdes du PKK et un groupuscule d'extrême gauche, le DHKPC. Les militants des droits de l'homme risquent entre 5 et 15 années de prison pour des accusations qu'aucune preuve ne vient étayer, s'indigne Andrew Gardner.
Si vous regardez les soi-disant preuves contre Hedi Lesser, la directrice d'Amnesty Turquie, vous verrez qu'on lui reproche des campagnes internationales d'Amnesty, des rapports publics d'Amnesty. Cela veut dire que nos activités quotidiennes comme défenseurs des droits sont criminalisées. C'est une tentative de s'en prendre non seulement à ces 11 individus, mais aussi de faire peur et de faire taire toute la communauté des droits de l'homme en Turquie.
Ce procès symbolique consacre le concept de cocktail terroriste. L'idée selon laquelle tout ce que la Turquie compte de terroristes formerait une alliance pour détruire son gouvernement. Le président Recep Tayyip Erdogan le ressasse à chaque discours. Des dizaines de journalistes, activistes, écrivains et autres voix critiques sont soupçonnés d'avoir trempé dans ce cocktail terroriste. Barosh Yarkadash, un député d'opposition, assiste à plusieurs procès chaque semaine.
Les procureurs agissent sur ordre du pouvoir. Leurs accusations sont tellement peu crédibles qu'ils savent qu'une partie de l'opinion publique risque de ne pas y croire. Ils brandissent le cocktail terroriste et accusent une même personne de travailler pour plusieurs organisations à la fois. Et tout ça dans l'espoir que cela passe plus facilement. Le but est aussi de faire peur. C'est une façon de montrer à ceux qui critique le pouvoir, qu'il n'y a rien de plus simple que d'être jeté dans ce panier du cocktail terroriste. Ce que le pouvoir nous dit, c'est ne parlez pas, n'enquêtez pas, ne vous opposez pas, obéissez sans condition à tout ce que je dis.
Même endroit, autre jour, autre procès. Cette fois, 6 journalistes sont jugés, dont 2 incarcérés, pour avoir publié des courriels extraits du compte piraté de Berat Albayrak, ministre de l'énergie et gendre de Recep Tayyip Erdogan. L'acte d'accusation mentionne non seulement le PKK, le DHKPC et le mouvement de l'imam Gulen, mais aussi le groupe État islamique et le parti communiste marxiste-léniniste illégal. Le reporter Eray Sargun comparaît libre mais fébrile.
Plus le nombre de groupes auxquels vous êtes accusé d'appartenir augmente et plus il est difficile de vous défendre. Ça vous affaiblit. La preuve, je ne sais pas par où commencer ma défense. C'est comme si j'étais attaqué à la fois par une hache, un couteau et un pistolet.
Dans la plupart de ces procès, les accusations qui se réfèrent au fameux cocktail terroriste sont d'autant plus absurdes que les groupes en question présentent des idéologies antagonistes, voire concurrentes. C'est le cas par exemple du PKK, marxiste et athée, et des islamistes du mouvement Gulen. À cela s'ajoute un problème ancien, la définition très large du terrorisme dans le droit turc. Selina Doğan, avocate et députée d'opposition.
La définition du terrorisme est volontairement laissée floue. Pour obtenir la levée des visas Schengen en échange de l'accord migratoire, la Turquie doit répondre à 72 critères. Et la définition du terrorisme est l'un de ces critères. Nous avons travaillé jour et nuit au Parlement pour remplir 69 critères. Mais à cause de la tentative de putsch, nous avons mis de côté l'article sur le terrorisme. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Chacun peut être arrêté à tout moment pour terrorisme, alors que cette accusation très grave devra avoir une définition.
Alors que les procès se succèdent au palais de justice d'Istanbul, Selina Doğan n'est pas optimiste.
Chaque fois que je rends visite à des détenus, je vois des bâtiments en travaux, nos prisons débordent. D'après le ministre de la Justice, environ 130 nouvelles prisons vont être construites dans le pays. Cela montre qu'ils ont l'intention d'arrêter encore beaucoup de monde.
Depuis la tentative de putsch de l'été 2016, plus de 50 000 personnes ont déjà été emprisonnées pour des accusations de terrorisme.
Un geste politique qui ne passe pas inaperçu en Lettonie. Le parti russophone de la Concorde, dont le chef est à la tête de la mairie de Riga depuis 8 ans, a décidé de rompre ses liens avec Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine. Une décision apparemment très tactique à l'approche des élections, Marielle Vituro.
4 ans déjà que le Parti de la Concorde a entamé sa mue et se présente comme une formation social-démocrate. Dans le QG de la formation, un café non loin de la gare de Riga, tout est aux couleurs de la social-démocratie, le rouge. Dans une petite vitrine, on trouve même le portrait de la révolutionnaire allemande Rosa Luxembourg. Difficile pourtant d'être convaincu du tournant pris par Nils Ushakov, le maire de Riga. Ses décisions populistes, ses allers-retours à Moscou parlant sa défaveur, tout comme son accord avec le parti de Vladimir Poutine, Russie Unie, signé en 2009. La présidence du parti prétendait ainsi donner une chance au dialogue avec le Kremlin. De plus, assurait-on, l'accord ne concernait que des domaines soi-disant neutres comme les échanges culturels. Israël. Mais à la surprise générale, le président du Parti de la Concorde a opéré une volte-face spectaculaire et décidé de son annulation. Dans la foulée, pour prouver sa bonne foi, la formation russophone de Lettonie a rejoint l'Alliance des partis socialistes européens. Même si l'événement est de taille pour la politique lettonne, les sceptiques sont nombreux. La décision du Parti de la Concorde est une manœuvre électorale en vue des législatives de 2018. Lors des dernières élections, le parti est arrivé premier, mais a été écarté du pouvoir, entre autres à cause de cette alliance avec la Russie. La scène politique lettonne est divisée non pas selon une ligne de fracture idéologique, mais ethnique. Et dans l'idée d'un futur rapprochement, un obstacle vient d'être levé. Mais pour convertir les Lettons à la social-démocratie, le Parti de la Concorde devra faire encore beaucoup d'efforts. Ses positions actuelles sur la famille ou les minorités sexuelles sont plutôt très à droite de l'échiquier.
Ils sont désormais appréciés autant pour leur bave que pour leur chair. À Gramichele, dans la province de Catane, Luca Interlandi a décidé de miser sur un petit animal vendu à bas prix sur les étals des marchés siciliens. Il s'agit bien sûr de l'escargot. Et aujourd'hui, les élevages avec lesquels il travaille s'étendent jusqu'en Calabre, de l'autre côté du détroit de Messine. Le reportage dans les collines de Cosenza de Cécile Debarge.
Au loin, le massif de La Silla dresse ses verts reliefs. À Mendicino, petit village calabrais flanqué à 500 mètres d'altitude, l'eau des montagnes ruisselle au bord de l'exploitation de Francesco Pasqua.
On a des parcelles où sont plantées des blettes, de la chicorée et ensuite des herbes folles. Des parcelles comme ça, on en a 36.
Chaque parcelle fait 46 mètres de longueur sur 4 de largeur, soigneusement encadrée par des filets anti-évasion, car les occupants des lieux ont des tendances baladeuses. Francesco Pasqua est éleveur d'escargots.
Tu vois la quantité de bave qui sort, et en les stimulant un tout petit peu, ça c'est vraiment la meilleure espèce pour la bave, c'est de la bave pure.
C'est bave pure.
Entre les mains de Francesco, une poignée d'escargots font sortir de leur coquille claire une ribambelle de bulles visqueuses et transparentes, la fameuse bave d'escargot, dont les propriétés cosmétiques et thérapeutiques ont été découvertes il y a une cinquantaine d'années.
Dans les années 1960-70, quand ils ont commencé à expérimenter les premiers élevages d'escargots, en les manipulant, en les sélectionnant, les éleveurs avaient les mains pleines de bave et ils ont remarqué que quand ils se blessaient pendant le travail, la bave avait une fonction cicatrisante et lissante de la peau et leurs mains restaient toujours impeccables. C'est à partir de là qu'on a lancé toute une série de recherches.
Ce fin connaisseur des vertus de la bave d'escargot, c'est Luca Interlandi, cofondateur avec Luca Ciriolo de l'entreprise Elix Esperia. C'est avec lui que Francesco Pasqua a lancé son activité il y a 5 ans. Au total, dans cette exploitation, chaque parcelle produit près de 2,5 quintaux d'escargot, soit 90 quintaux par an pour l'éleveur calabrais. Une petite partie seulement des gastéropodes vendus par Elix Esperia.
Entre la Sicile et la Calabre, on a plus de 70 élevages éparpillés et donc on arrive à au moins 300 parcelles d'élevage.
Une partie de la production est destinée à être mangée ou transformée en spécialités culinaires audacieuses comme les biscuits aux escargots ou le saucisson d'escargot. D'autres, comme les escargots de Francesco Pasqua, sont uniquement destinés à l'extraction de bave. Pourtant, en 2003, Luca Interlandi était seul. En héritant de son beau-père 1,5 hectare de terrain à Gramichele, en terre sicilienne, ce travailleur en psychiatrie se lance par jeu et par passion. 7 ans plus tard, les fonds européens de la politique agricole commune donnent un véritable coup de pouce à la petite entreprise.
Avec ça, on a construit des routes, tout le système d'alimentation en eau, on a acheté 8 caméras infrarouges, les petites tours de surveillance avec laser qui définit le périmètre du terrain, un tracteur, 2 débroussailleurs, un générateur d'électricité. On a aussi construit une remise de 65 mètres carrés avec 6 kW de photovoltaïque, une chambre froide, des enclos.
Aujourd'hui, il a créé avec son associé une sorte de groupement de producteurs.
De ce côté-là, l'union fait la force. Et donc, la particularité de notre entreprise, c'est qu'on suit l'éleveur depuis le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire la production, avec la possibilité d'acheter sa production et de la vendre.
Suivre l'ensemble de la production, de l'élevage à la transformation, c'est l'un des points forts de l'entreprise, aujourd'hui l'une des plus importantes du bassin méditerranéen. Francesco Pasqua ne déroge pas à la règle. À une dizaine de minutes en voiture de son exploitation, l'éleveur calabré a son propre extracteur de bave.
On les met dans le bassin de lavage, on les met en sac et on les prépare. Ils restent une journée comme ça. Ensuite, on les lave, on les sépare et on les pèse pour pouvoir obtenir 6 kilos de bave à chaque fois.
L'étape finale se déroule dans une sorte d'immense passoire où les escargots glissent sur les parois dans un mouvement de balancier afin de libérer la précieuse bave qui d'ordinaire leur sert à se protéger des agressions extérieures. Un processus d'une vingtaine de minutes qui garantit une qualité optimale et surtout permet aux agriculteurs de s'assurer de la traçabilité de leurs produits.
Le problème, c'est que même nous, on a des soucis de contrefaçon. C'est-à-dire qu'en Chine ou ailleurs, tu trouves de la bave à 30 euros le kilo. Mais ensuite, elle a des propriétés organoleptiques faibles, si ce n'est nul. Et donc, ce n'est efficace ni sur la peau, ni sur la toux ou sur quoi que ce soit d'autre. Et ça, d'une certaine manière, ça nous cause du tort.
Car à mesure que les vertus de la bave d'escargot dépassent les frontières, la concurrence se fait de plus en plus rude. La petite entreprise mise donc sur la traçabilité à toute épreuve et multiplie les partenariats à l'étranger pour diffuser son savoir-faire. Des investisseurs ont déjà fait part de leur intérêt en Pologne, au Qatar ou bien encore en Chine.
Le reportage de Cécile Debarge, réalisé avec le soutien de la Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Cette nuit du 31 octobre, on fêtera Halloween dans les pays anglo-saxons et en Europe, mais les Allemands, eux, célèbrent aussi un tout autre événement, les 500 ans de la réforme protestante, un jubilé célébré comme des festivités nationales. Le jour a même été décrété férié dans tout le pays, alors qu'il ne l'est normalement que dans certaines régions protestantes. Et c'est Martin Luther, le père de la réforme, qui est célébré à travers tout le pays, de manière parfois très commerciale, Déborah Berlioz.
C'est la figurine Playmobil la plus vendue de tous les temps, celle de Martin Luther. Elle s'est écoulée à plus d'un million d'exemplaires, même Dark Vador n'a pu battre ce record. La version plastique du réformateur allemand a été créée spécialement pour célébrer les 500 ans de la réforme. À l'origine, pourtant, la marque de jouets allemande avait été prudente. Lors de la première édition, 34 000 figurines de Luther avaient été commandées, mais elles sont parties en moins de 72 heures. Le Playmobil Luther n'est pas le seul produit dérivé de ce jubilé. Bière, moule à gâteau ou encore boule à neige à l'effigie du réformateur se sont également bien vendus. L'occasion de rappeler à tous que Martin Luther, né en 1483, est à l'origine du protestantisme allemand. Moine augustin, il est indigné par le commerce des indulgences de l'Église catholique. Pour lui, le salut est un don gratuit de Dieu. Il l'affirme dans ses 95 thèses qu'il placarde à Wittenberg le 31 octobre 1517. Ce geste fondateur marque son divorce avec Rome. Il est excommunié en 1521. Aujourd'hui, les protestants représentent environ 30% de la population allemande, mais Luther est célèbre bien au-delà de cette communauté. Quand on demande aux Allemands qui sont leurs grandes figures, le réformateur arrive toujours dans le trio de tête avec Adenauer et Bismarck. Ici, on le connaît notamment pour sa traduction de la Bible. Luther voulait que ses concitoyens aient accès aux textes sacrés, mais à l'époque, il n'était pratiquement disponible qu'en latin. Portée par l'invention de l'imprimerie, la Bible de Luther aura un succès considérable et elle aura une grande influence sur la langue allemande. Dans son texte, Luther s'efforce en effet d'unir les dialectes pour créer la langue allemande moderne utilisée aujourd'hui.
Ludivine Amado a réalisé et mis en onde cette édition. Accent d'Europe à retrouver demain dès 12h41.